Donald Trump au château de Versailles. Ce devait être l'occasion d'un dîner, des dorures, du beau monde, mais rien d'extravagant. C'était sans compter sur la surprise du chef, la signature de l'accord entre l'Iran et les États-Unis pour mettre fin à la guerre, plus de 3 mois après le début du conflit, engagé par les Américains et l'allié israélien. La fin d'une guerre, mais le début de négociations, il faut maintenant imaginer la suite, notamment en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, passage stratégique qui va rouvrir, mais à quel prix ? Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois un professeur de droit maritime, Olivier Lasmolle. Je l'interroge sur la redevance que l'Iran espère faire payer aux navires empruntant ce détroit. Est-ce inédit ? Est-ce même légal ? Et comment l'appliquer ? D'ailleurs, quel est son coût pour les compagnies et pour les consommateurs qui pourraient à la fin régler la facture ? Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
Convoi du président américain qui est doucement en train d'arriver près de Versailles. C'est un très long convoi de plusieurs dizaines de voitures. Il y a eu aussi une escorte à moto au tout début de ce convoi. Et dans l'une de ces voitures, il y a donc Donald Trump. Il faut savoir qu'il y a toujours 2 voitures blindées identiques dans le convoi de Donald Trump. Une dans laquelle le président américain est, et puis une autre qui est un leurre qui sert en cas d'attentat. Le convoi de Donald Trump est en train de remonter en ce moment l'avenue du Général de Gaulle. C'est à 2 pas du château, à quelques centaines de mètres seulement. Et Donald Trump arrive ici à Versailles, dans une ville qui a été quadrillée pour l'occasion. Il y a un gros dispositif de sécurité ce soir. Près de 200 policiers des Yvelines qui sont mobilisés. Beaucoup de gendarmes et des CRS. Et puis aussi quelques agents du Secret Service, dont certains sont en tenue civile pour assurer des missions de surveillance.
Drapeau français et américain sur les voitures, le convoi de Donald Trump fait son entrée dans la cour du château de Versailles. Le soleil commence à tomber, lumière orangée, dorure éclatante, sur les marches, Emmanuel Macron attend en costume sombre avec à ses côtés sa femme Brigitte. Le président américain est assis à l'arrière de sa voiture, The Beast. Patrick Sauss et Marie Chantret décrivent la scène pour BFM TV.
L'homme de la sécurité du président de la République vient de taper 2 fois sur le capot, c'est prêt, l'homme du Secret Service descend. Donald Trump est en train de remettre son costume. On le voit à travers les vitres extrêmement
épaisses.
Absolument,
c'est un moment très particulier, Patrick. Hein,
avec ce bruit
et ce poids de cette voiture de De Beers que l'on sent là sur le pavé de cette cour royale. Et Emmanuel Macron qui s'élance pour aller à la rencontre du président Donald Trump. Son épouse attend.
À l'intérieur du château, visite de la Galerie des Glaces, concert dans la Chapelle Royale, puis un dîner au menu, asperges avec homard et caviar, poulet rôti à la truffe, fromage, tarte au chocolat, glace vanille. Autour de la table, une 30aine de personnes, les équipes du président américain, des membres du gouvernement français, quelques hommes d'affaires aussi. Quelques heures avant ce sommet, Emmanuel Macron l'assumait. N'ayons pas honte de ce que nous sommes. Versailles, c'est un instrument diplomatique, un instrument de puissance. Ce à quoi le président américain semblait sensible.
Versailles, c'est pas du plaqué or. Versailles, c'est du lourd.
Et c'est à la table du dîner que se présente une surprise, pour les observateurs en tout cas.
Bravo!
La signature du traité mettant fin au conflit entre l'Iran et les États-Unis. 3 heures après son arrivée à Versailles, Donald Trump est raccompagné vers 1h du matin par le couple Macron. Il dit au revoir et donne quelques mots aux journalistes avant de monter dans sa voiture. C'est signé. Le texte signé par Donald Trump, c'est le protocole d'accord annoncé lundi. Il prévoit d'abord la fin des hostilités entre les États-Unis, l'Iran et leurs alliés, y compris au Liban. C'était un prérequis pour les Iraniens. Le reste doit être négocié dans un délai de 60 jours pour la signature d'un accord final. L'Iran a confirmé avoir signé ce protocole d'accord. Esmaïl Begal est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Au cours des 60 jours qui débutent immédiatement après la signature de ce texte, nous devrons travailler à la fois sur les modalités de la mise en œuvre de ce document, mais aussi sur 2 questions très importantes, l'allègement des sanctions et la question du nucléaire. Comme vous vous en souvenez peut-être, nous avons souligné dès le début qu'à ce stade, nous n'aborderions pas la question nucléaire.
Mais il y a aussi, et peut-être surtout, la question du détroit d'Ormuz, ce bras de mer qui voit passer un cinquième des hydrocarbures mondiales. En temps de paix, avec la guerre, l'Iran a décidé de bloquer le passage des navires, même commerciaux, les États-Unis y ajoutant leur propre blocus, mais dans l'accord signé, il y a de quoi régler cela.
C'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc, du détroit d'Ormuz, sans péage, et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales. Donc nous allons continuer de travailler.
La réouverture du détroit d'Ormuz. Avant même que le protocole d'accord ne soit paraphé, trois tankers iraniens chargés de près de 5 millions de barils de pétrole brut franchissaient le passage. Mais alors, le trafic a-t-il déjà réellement repris ? Célia Vallet est l'envoyée spéciale de BFM TV à Doha, au Qatar.
Depuis quelques jours, oui, ça circule dans le détroit d'Ormuz. Des pétroliers iraniens et des navires commerciaux ont traversé ce passage stratégique d'après les données maritimes dont on dispose. Et c'est un trafic qui ne va faire que s'accroître puisque le Pakistan a annoncé la réouverture totale de ce passage stratégique avec notamment la levée du blocus naval américain.
Ce jeudi, un premier navire de transport de gaz naturel liquéfié français est sorti du détroit, ce qui est une première depuis le début de la guerre. De là à espérer un retour à la normale, rien n'est moins sûr. Voici une dernière déclaration de Mohammad Bagher Ghalibaf, le négociateur en chef de l'Iran avec les États-Unis.
Pendant la guerre, j'ai écrit dans un tweet que le détroit d'Ormuz ne redeviendrait jamais comme avant. Et je partage toujours cette vision aujourd'hui. Cela ne signifie toutefois pas que nous avons l'intention de mépriser les règles établies de navigation. Au contraire, nos actions resteront pleinement dans les limites du droit international.
Certes, dans ce projet d'accord, le régime iranien doit rouvrir le détroit d'Ormuz, sans frais, dans les deux sens, du Golfe vers la mer d'Oman et inversement, mais cela pendant 60 jours. Ensuite, eh bien, c'est encore flou. Téhéran entend par exemple imposer des droits de redevance, faire payer le passage. J'y reviendrai avec mon invité dans la deuxième partie de cet épisode. Il n'empêche, dès le lendemain de la signature du texte, les prix du pétrole ont continué à baisser, plus fort encore, moins 3% en gros, plaçant le baril autour de 71-77 dollars, au plus près des prix d'avant la guerre. Mais à quand un retour à ces prix-là ?
Bon, il faut vraiment que le détroit se réouvre véritablement.
Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, détaille son analyse lors d'une audition au Sénat.
Donc, je pense que ça va prendre un peu de temps pour se remettre en état. Ce qui est physique, les dommages physiques, il faut sans doute une année pour les réparer. Mais disons, je pense qu'on doit pouvoir rétablir un fonctionnement normal de tout ce marché dans les 6 mois qui viennent, pour autant qu'on rentre vraiment dans une période d'ouverture du détroit.
Bonjour Olivier Lasmolle.
Bonjour.
Vous êtes officier de réserve opérationnelle de la Marine nationale, professeur de droit maritime à la Schema Business School, autant dire l'homme de la situation vu le sujet. Des droits de redevance, disent les Iraniens, pour passer dans le détroit d'Ormuz d'ici une soixantaine de jours. Quelle est la différence avec une taxe de passage ?
Alors, les termes varient régulièrement. Depuis 2 mois, on a des termes, on passe de droit de passage à péage, à frais. La difficulté est de s'entendre. Dans un détroit, normalement, il n'y a aucun frais.
Voilà, d'abord, il faut revenir à la règle.
Oui, il y a une règle qui a été posée, tout simplement, par le droit international, par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Alors, les puristes vous parleront de la CNUDM ou de la Convention de Montego Bay, voilà, ville en Jamaïque, qui pose, en gros, le régime de toutes les zones maritimes qui existent. En haute mer, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? Qu'est-ce que la mer territoriale ? Où elle commence, où elle s'arrête, quels sont les droits de l'État riverain. Il y a ce qu'on appelle également la zone contiguë, la zone économique exclusive, et puis il y a d'autres zones comme les eaux archipélagiques qui entourent les archipels, et il y a les fameux détroits.
Et dans un détroit, on passe normalement librement.
On passe librement, c'est-à-dire très souvent dans un détroit, il y a deux mers territoriales qui se font face, et on va décider qu'au milieu de ces deux mers territoriales, voire trois ou quatre, on va décider qu'il y aura un chenal qui passera, par lesquels les navires pourront passer librement sans que les États riverains ne puissent s'y opposer.
Parce qu'en principe, jusqu'à une certaine distance, les eaux au large d'un État appartiennent à cet État. En tout cas, il y a certains droits. Et lorsque ces deux eaux territoriales sont à cheval sur un détroit, c'est le détroit qui l'emporte. C'est bien résumé ?
Alors oui, on va dire ça effectivement. Oui, tout à fait. Et comme les détroits sont souvent étroits, ben, les mers territoriales se rejoignent. Il n'y a pas de zone économique exclusive parce que la zone économique exclusive vient après la mer territoriale. Et là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ZEE. Et c'est sur cette zone qu'on va décider qu'il y a un passage libre. Contrairement à une mer territoriale classique, je dirais en quelque sorte, où l'État qui est pas propriétaire, mais qui a des droits souverains sur cette mer territoriale, peut dire bah « moi je refuse que tel type de navire passe, je refuse que tel navire de telle nationalité passe ». Ils ont ce droit, ce qui n'est pas le cas quand un détroit a été défini par le droit international.
Alors là justement, ce détroit a été défini comme libre de passage. En parlant d'un droit de redevance, les Iraniens vont contre cela. L'Iran s'engage en fait à assurer la sécurité du passage des navires commerciaux. C'est comme ça que ce droit de passage est justifié. L'Iran aurait à intervenir plus qu'avant, aurait des dépenses à engager plus qu'avant pour permettre aux navires de passer ?
Non, non. Le détroit n'a pas changé sur un plan de la morphologie des fonds marins. Rien n'a bouger, rien n'a changé.
C'est un prétexte
mais évidemment,
pour en faire une rente.
Mais bien sûr, c'est un prétexte. Et d'ailleurs, on l'a vu venir très rapidement lorsqu'il frappe sur l'Iran et que l'Iran a décidé de parler de péage. On a compris tout de suite qu'il n'y aurait pas de péage, ou certainement pas de péage, au sens d'avoir 2 millions par navire qui passerait, par transit, parce que c'était tout simplement tuer le trafic, et donc l'Iran a besoin de ce trafic. Par contre, on a vu venir très rapidement, et moi en tant que professeur de droit maritime, je l'ai vu rapidement, ils allaient renégocier le statut de ce détroit. Parce qu'il y a un statut.
C'est ce que vous voyez venir pour que le droit de passage, le droit de redevance soit mis en œuvre. Il faut renégocier le statut, les Iraniens passeront par là.
Ah bah, c'est quasiment certain. Parce que il faut tout simplement, pour que les choses se fassent proprement, on va invoquer le droit. Alors, on invoque le droit lorsqu'on n'est pas content qu'un autre acteur ne le respecte pas. Les États-Unis ont revendiqué le droit international quand les Iraniens ne l'appliquaient pas, et inversement. Il faut comprendre que le droit de la mer, le droit international, est un droit qui fait tampon, qui fait une sorte de matelas d'amortissement pour les tensions internationales. Et là, c'est ce qui se passe. On va revenir dans le giron du droit pour une négociation.
Ça s'est fait ailleurs, des détroits qui deviennent payants par un changement de statut, comme ce que vous imaginez pour Hormuz.
Il faudra revenir sur le terme payant. Maintenant, il y a des détroits qui, effectivement, étaient de libre passage et sur lesquels il y a des frais. On parle de frais, on parle pas. Ah, les mots sont extrêmement importants. Les frais, c'est pour des frais de services rendus. Par exemple, en 1936, on a eu une convention de Montreux, qui a décidé que les deux détroits turcs, les Dardanelles et le Bosphore, auraient un régime spécifique qui ne serait plus le régime des conventions internationales. Et donc, ça serait un détroit particulier. Et donc, la Turquie a le droit de prélever des frais pour l'assistance, pour le balisage. Donc, ce sont des frais qui sont bien définis. Pareil, on a eu pour les détroits nordiques, au XIXe siècle, le traité de Copenhague qui a décidé que certains droits auraient un régime spécifique. Donc, soit on a un régime spécifique, et à ce moment-là, on dit le droit d'Hormuz, il sort des détroits classiques et on a un détroit avec des règles particulières qui s'appliquent là. Ou alors, et là, ça serait plus surprenant, mais pourquoi pas, ça serait de dire finalement, les régimes des détroits ne s'appliquent plus et c'est le régime des mers territoriales qui s'appliquent. Et à ce moment-là, ce n'est plus le même régime, puisque dans les détroits, on appelle ça un passage en transit, alors que dans une mer territoriale, c'est un passage inoffensif. En passage inoffensif, on peut prélever des frais. En passage en transit, donc dans un détroit, on ne peut pas.
Si jamais des frais étaient prélevés, des frais vont être prélevés, a priori, c'est ce qui se dessine. Comment est-ce que ça se passe ? Quelle est la somme ? C'est par bateau ? C'est par tonnage ? Donnez-nous un ordre de grandeur.
Alors, j'avais regardé justement ce qui se fait pour la Turquie, pour les détroits turcs, et j'avais essayé d'appliquer la proportionnalité, les sommes qui sont payées pour l'appliquer au détroit d'Hormuz. Et c'est par transit, et par donc navire qui passe, il y a le tonnage, évidemment, parce qu'un porte-conteneur qui passe, un porte-conteneur qui a 10 000 conteneurs et un autre qui en a 23 000, c'est pas tout à fait la même chose. Un petit pétrolier et ce qu'on appelle un VLCC, c'est la deuxième plus grosse catégorie des pétroliers, c'est pas la même chose non plus. Et donc, c'est en gros, ça s'élèverait entre 300 et 800 000 dollars par transit.
C'est beaucoup ça pour une compagnie de fret ?
Par rapport à ce que voulaient mettre en place comme droit de péage les Iraniens à l'origine, c'était 2 millions par transit. Donc on n'est plus du tout dans cette ordre de grandeur.
Mais les compagnies de fret pourront y survivre, pourront dire de toute façon on n'a pas d'alternative suffisamment intéressante,
alors,
on paiera.
Le transport maritime et ça, je ne vais pas remonter à l'histoire maritime depuis l'Antiquité, mais on sait depuis les textes antiques, que ce soit les Romains, que ce soit les Phéniciens, qui savent, le monde maritime sait s'adapter. C'est un secteur très souple, qui a un droit également qui est très pragmatique, et donc qui s'adaptera. Le droit s'adaptera, l'économie s'adaptera. Pourquoi ? Parce que vous avez des armateurs qui peuvent louer leurs navires à des affréteurs. Les affréteurs ont des chargeurs, c'est-à-dire ceux qui vont mettre des marchandises à bord. Et tout ça va se répercuter sur, au final, le prix aux consommateurs. Donc, ça sera absorbé. Les assurances le prendront en charge également.
Quel va être l'impact sur les prix ? Parce que les assureurs aussi vont sans doute vouloir faire augmenter leur cotisation. Ça va à la fin se répercuter sur les consommateurs ?
Alors ça se répercutera sur les consommateurs, mais je vous dirais, il y a une telle volatilité des prix entre les taxes, la TVA en France, et puis il y a l'équivalent à l'étranger, il y en a qui ne l'ont pas. Je ne sais pas si réellement on le ressentira. Ça pourra se ressentir, par exemple, si on regarde le prix du Brent et combien le baril sera transporté. Parce qu'on parle du Brent, on dit, voilà, on est descendu à 80 dollars le baril brut, mais on ne prend pas en compte le transport maritime. Donc, ça sera répercuté. Maintenant, ça sera absorbé en partie par les acteurs du monde maritime. Et au final, in fine, ce qui est très bien d'ailleurs, ça se répercutera sur le consommateur. Mais ça sera léger, ça sera léger. C'est les sommes dont je vous parle, ce sont des sommes qui sont légères. Et de toute manière, on a besoin de ce trafic.
Et les assureurs, ils vont augmenter leurs frais ? Ah. Ou alors, si le retour à la normale se fait d'ici quelques mois, comme semblent le dire les observateurs, finalement, les prix peuvent revenir aussi à la normale ?
Alors, ça va revenir sûrement à la normale. Et de toute manière, on est parti dans des sommes qui étaient tellement délirantes en termes d'assurance, ce qui est tout à fait normal. Attention, je ne suis pas en train de dire que les prix qui avaient été multipliés par 20, par 30, par 40, parce qu'il y avait ce qu'on appelle une clause de guerre qui a été activée, ce qui est une police de guerre.
Si le détroit est devenu sans doute la zone la plus dangereuse du monde pour
voilà,
un navire.
C'était tout à fait normal. Et d'ailleurs, les assureurs ont fait parfaitement leur travail. Quand tout va redescendre à la normale, on va se dire finalement, ce surcoût va être indolore pour le consommateur.
Il y a la question de ces potentiels droits de redevance pour naviguer, mais on navigue si jamais on peut naviguer. C'est-à-dire, sans mines par exemple, il y en a, on le sait maintenant, des mines maritimes qui ont été posées par l'Iran dans ce détroit. Comment est-ce qu'on les retire ? Combien de temps ça prend ? Et il faut attendre qu'elle s'est disparue pour naviguer, j'imagine.
Normalement, oui. Les mines, il est rare qu'il y en ait encore qui soient en mer et qu'on ne les ait pas trouvées, parce que les mines finissent à un moment donné par se détacher, si elles se détachent ou remonter ou exploser en vieillissant, parce que ça arrive, on a vu ça suite à la Seconde Guerre mondiale. Alors les mines, je dis attention, attention. Personne n'a vu pour l'instant une mine, personne n'a constaté une mine qui est explosée. Donc on a bien l'Iran qui nous dit qu'il y a des mines.
Des médias américains qui confirment cette information,
oui.
Une dizaine de mines.
Voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment très peu, contrairement à ce qu'on pensait au début, ce que les Iraniens avaient dit, pour avoir un ascendant psychologique. Évidemment, quand vous dites à un armateur « il y a des mines », l'armateur ne prendra pas le risque.
Enfin, si on lui dit « il y a une mine », il prend quand même le risque ?
Non, mais c'est plus facile avec des démineurs, des dragueurs de mines, de venir déminer. Alors le déminage, il peut se faire en 3 semaines, 1 mois, si on sait où les mines se trouvent.
Ça dépend donc de la coopération de l'Iran.
Et surtout si l'Iran sait où elles sont, encore. Parce qu'elles peuvent dériver et ils peuvent très bien ne plus savoir où certaines se trouvent. Et tant qu'on n'est pas certain, c'est assez compliqué. Les États-Unis ont les moyens, mais n'ont pas forcément envie. Et les Européens ont vraiment des moyens techniques. Donc ça pourrait se faire. Il faudrait que l'Iran le dise et qu'il donne aux marines qui viendront déminer les informations où se trouvent ces mines.
C'est le prérequis à tout ce qu'on s'est dit, fait de renaviguer, de faire payer les assurances. Tant qu'il y a la question des mines, rien n'avance.
Bien sûr, il faut d'abord que tout le monde se mette d'accord pour qu'on dise, voilà, là c'est 60 jours, ça rouvre. On décide qu'elle s'ouvre. À partir de là, on dit on va déminer. On décide quelle force marine va aller, quelle marine nationale va aller déminer. On dit où se trouvent les mines si possible. On les démine. Et après, on dit on rouvre. Mais là aussi, la rouverture va prendre du temps. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il faut qu'on charge les navires. Et puis après, il faut que les assurances renclenchent derrière une baisse des primes petit à petit. Les assurances ont toujours besoin d'avoir une vision à plusieurs mois pour que ça se stabilise. Les assureurs n'aiment pas l'instabilité, n'aiment pas le risque, même si ce sont les spécialistes du risque.
Le temps long de la marine. Merci Olivier Lasmolle d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Je vous remercie.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Nel Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.